Et oui, plus de 3000 donneurs sont attendus. C'est du 20 au 23 janvier prochain au Capitole pour une grande collecte de sang. Ça se passe sous le parrainage de la skieuse Perrine Lafont. Quand la générosité peut sauver des vies, c'est notre sujet ce matin avec un témoignage, celui de Laure Vitou, une toute jeune maman à qui on a décelé une leucémie en février 2019. Si elle est face à moi ce matin, c'est grâce à ce type de collecte et à la solidarité que mon invité a suscité. Bonjour Laure Vitou.
Bonjour.
Un grand merci d'être en studio avec nous ce matin. Alors, on va faire les présentations si vous voulez bien. Vous êtes mariée, vous avez 37 ans, hein, toute jeune maman. Hein. Un petit garçon de 7 ans, une petite fille de 5 ans. Vous travaillez dans le milieu du rugby. Et si je le précise, c'est que ça aura une importance dans votre histoire. Laure Vitou, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous avez repris une vie à peu près normale?
À peu près, c'est le terme. Je vais beaucoup mieux. J'ai repris du poids parce que j'avais perdu 25% de mon poids dans l'histoire.
Oui.
J'ai repris le travail. Alors, je ne peux pas encore travailler à temps complet. Je travaille 25 heures par semaine, mais ce qui me permet quand même d'avoir une activité. J'ai repris le sport, qui était quelque chose de très important pour moi et qui m'a permis aussi de me retaper et de voir mes progrès. Donc, c'était super. Et puis, j'ai repris surtout de l'énergie et donc une vie quasi normale.
Une vie quasi normale, une vie de maman avec ses petits également. Laure Vitou, je l'ai dit dans mon introduction, c'est grâce à des collectes de sang que vous devez la vie, que vous êtes face à moi ce matin. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes à qui vous devez la vie?
Alors, j'ai compté au démarrage. J'avais un calendrier dans ma chambre d'hôpital et dès que j'avais une transfusion, je le notais. Donc, j'étais soit transfusée en plaquettes, soit en globules rouges, en fonction des taux que j'avais chaque jour. J'étais transfusée environ tous les deux jours dans ces phases d'aplasie qui suivent les chimios. Après, j'ai eu une phase d'amnésie, donc j'ai perdu le compte. Mais en essayant d'y repenser, je pense qu'il y a une trentaine de personnes en tout, avec toutes les poches de sang, parce que quand on a une leucémie, pour la guérir, il faut remettre à zéro la moelle, et c'est la moelle qui produit les éléments constitutifs du sang, donc du coup, on ne peut pas en produire. Et donc, pour vivre et pour tenir debout, on a besoin clairement d'hémoglobine. Quand l'hémoglobine tombe en dessous de 7, on ne tient pas debout. On a vraiment la tête qui tourne. Donc, il faut que chaque jour, avoir sa poche qui nous permet de se relever. Quoi.
Et alors, vous dites à peu près 30 personnes qui vous auraient donné du sang, qui vous ont donné aussi de la moelle osseuse. Ça fait quoi de se dire qu'on a la vie, qu'on est debout aujourd'hui grâce à la générosité, à cet élan de solidarité de personnes qu'on ne connaît pas en plus. Hein.
Ben, on se sent très redevable, très reconnaissant. On se rend compte de l'altruisme des autres qui nous ont permis de vivre. Parce qu'effectivement, quand on donne son sang, on ne sait pas pourquoi on le donne. Et quand on donne sa moelle, pour le coup, on le donne une fois dans sa vie, on ne sait pas à qui. Pareil, l'anonymat est conservé pour des raisons que je comprends totalement. Mais du coup, on donne un petit peu de soi pour quelqu'un sans rien attendre en retour. Et ça, c'est magnifique.
Oui, c'est inouï. Et vivre avec le sang, la moelle d'un autre, c'est quelque chose à laquelle vous pensez au quotidien? Ça fait bizarre? C'est comment?
J'y pense pas plus que ça. Je suis souvent reconnaissante. Je me dis que je sais que mon donneur était allemand, donc je rigole en disant que c'est de la bonne qualité, et que j'ai une bonne moelle, que j'ai un bon sang, que voilà. mais j'y pense pas tous les jours, mais là par exemple depuis que j'ai été greffée, logiquement, comme on a une immunité très faible, on a beaucoup d'infections, de maladies, de bactéries, de virus, et c'est vrai que moi tout s'est bien passé depuis la greffe, alors que j'ai deux enfants scolarisés qui étaient à la maternelle, donc ils reviennent. Alors on a mis en place les gestes barrières, on les a mis en place avant que tout ça arrive, puisque ils devaient se laver les mains dès qu'ils rentraient à la maison. Moi je devais tout nettoyer tous les jours, désinfecter le frigo, y avait plein de règles qu'on a respectées. Mais tout s'est très bien passé, donc je suis vraiment très reconnaissant parce qu'il m'a donné une super moelle.
Une super moelle, un bon constructeur, un bon constructeur allemand. Alors on plaisante, mais l'histoire a tourné quand même dans un mauvais tour. C'était le 28 février 2019 que votre vie a été bousculée. Il se passe quoi dans votre tête, Laure Vitou, quand le médecin vous annonce que vous avez une leucémie?
Je pense que le cerveau a un mécanisme de défense où on se rend pas compte que c'est très grave. Je suis restée très opérationnelle en disant bah, demain je dois partir à Paris, puis après-demain j'ai un concert à Perpignan, et puis et le médecin me disait non, mais vous n'avez plus aucun engagement ni personnel ni professionnel, vous allez être hospitalisé pendant des semaines. Et je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas arrêter du jour au lendemain. Enfin, c'était vraiment de la négociation pour savoir comment ça allait se passer. Ça a été très vite aussi la question des enfants, parce qu'ils m'ont expliqué que c'était un environnement protégé dans lequel les enfants n'étaient pas admis. Donc je savais que j'allais être enfermée pendant 5 semaines sans pouvoir voir mes enfants. Donc ça a été très compliqué de se dire comment ça va se passer, comment je vais pouvoir gérer pour qu'ils aillent bien pendant cette période. Quoi. Ça a été...
Et vous avez toujours pensé que vous alliez guérir ?
Ouais. Je pense que je l'ai pensé pour eux aussi. Il fallait que je leur montre que l'hôpital, c'est... enfin, aller à l'hôpital, c'était pour guérir. Mmh. En plus, c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc, moi, je suis tombée des nues, mais eux encore plus.
Ils étaient petits, en plus.
Ils étaient petits, ils ne comprenaient pas, une maladie du sang. Alors, on m'avait dit, n'utilise pas le mot cancer, parce que dans la cour d'école, ils se disent tous, ma grand-mère est morte d'un cancer. J'ai un cancer. Enfin, j'ai quelqu'un qui est mort d'un cancer, donc j'utilisais la maladie du sang, leucémie, pas cancer. Après, quand j'ai été hospitalisée, on m'a donné des livres aussi pour essayer de
leur expliquer,
de parler. Il y a des choses bien qui existent pour moi.
Donc, on l'entend à votre voix, à votre dynamisme qui passe. Hein. Vous êtes une battante, vous pensez que vous allez guérir. Tout se met en branle assez rapidement, parce que quoi que vous en pensiez, le concert, les matchs et les réunions, ça, c'est fini pour vous. Hein. Vous êtes hospitalisée très vite, sauf qu'au bout d'un mois de traitement par chimio, qui donne lieu à un certain nombre de transfusions sanguines, hein, c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce matin, hein, on s'aperçoit que le traitement ne marche pas, la chimio ne marche pas, pas de chance, parce qu'elle marche pour 90% des cas. Et là, on vous dit qu'il va falloir recourir à une greffe de moelle osseuse. Il va falloir nous éclairer, Lorvitou, en quoi ça consiste exactement une greffe de moelle osseuse ?
Alors, une greffe de moelle osseuse, quand on est greffé, c'est pas comme un organe où on enlève un organe à quelqu'un qui est mort et qu'on le transfère. C'est un don qu'on fait de son vivant et ça ressemble à une poche de sang. Et c'est une transfusion. C'est comme une transfusion d'une poche de sang, sauf que ça passe sur 3 heures, donc un peu plus long, c'est un peu plus dense. En préalable, on a une chimio de conditionnement, donc où on met notre moelle osseuse à nous à zéro pour laisser la place à l'autre. Et du coup, après, il y a cette phase de reconstruction qui dure quelques semaines où la nouvelle moelle prend place dans les os. Donc la moelle osseuse, elle est présente dans tous les os plats du corps. Et une fois qu'elle est en place, elle se met à reproduire les éléments constitutifs du sang. Et donc, on vit par des poches de sang pendant quelques semaines, là, jusqu'à ce que la nouvelle moelle soit bien en place et prenne le relais.
Alors, décrit comme ça, c'est simple, sauf que ce n'était pas exactement le cas au départ, hein, parce que, en fait, des donneurs, il y en avait très peu d'inscrits au moment où vous en aviez urgemment besoin, parce qu'on parle comme ça très, très calmement et très reposé, mais c'était une course contre la montre.
Oui, alors il fallait que ça arrive très vite, parce que comme je n'avais pas été mise en rémission grâce aux chimio, on a testé un nouveau traitement qui s'appelle l'immunothérapie, qui lui m'a mise en rémission donc depuis le 9 août 2019, ce qui était génialissime, sauf que c'est une rémission de très courte durée, donc il fallait que la greffe arrive tout de suite après, donc on m'a fait 2 cures d'immunothérapie sans me laisser 2 jours de carence entre les deux, et derrière, la greffe tout de suite, hospitalisation pour la greffe. Et quand on m'a annoncé que la chimio ne marchait pas, on m'a aussi annoncé que je n'avais pas de donneur compatible à ce jour sur les fichiers, donc c'est là qu'avec mon entourage, on s'est penché sur qu'est-ce que c'était ces fichiers, comment est-ce qu'on peut devenir donneur, et qu'on a lancé cette campagne de mobilisation pour qu'il y ait de plus en plus de donneurs. Parce qu'il faut savoir que le type HLA, qui fait qu'on est compatible ou pas en termes de moelle, il y a 1 chance sur 1 million, quand on prend 2 personnes au hasard, qu'elles soient compatibles. Donc sur les fichiers internationaux, aujourd'hui, il y a 33 millions de personnes. Mais il faut savoir qu'on est compatible avec des personnes d'origine ethnique semblable. Donc nous, c'est vraiment... souvent, on est greffé donc en France, Allemagne, Amérique du Nord... Et beaucoup avec des Allemands, donc moi ça a été un Allemand, mais les chambres à côté de moi à l'oncopole aussi, parce qu'ils sont 8 millions sur ces fichiers-là, là où nous on est 300 000. Donc on va souvent piocher chez les Allemands pour trouver quelqu'un de compatible.
Et ça veut dire que vous aussi, vous aviez 1 chance sur 1 million de trouver un donneur. Et donc vous l'avez trouvé. À ce moment-là quand même, vous m'avez dit, j'ai arrêté de faire la battante, il a fallu que quelqu'un vienne prendre le relais. Et c'est venu de votre travail, le milieu du rugby, ça vous a tenu, ça a mobilisé du monde. Racontez-nous cette jolie histoire. C'est quand même une belle histoire de générosité, le don, votre maladie, et puis ce qui s'en est suivi.
Oui. Parce qu'effectivement, quand le même jour, j'apprends que la chimio de rattrapage qui avait été infernale n'a pas marché, que du coup, aucune chimio ne marchera et qu'il faut une greffe de moelle et que je n'ai pas de donneur compatible, c'est la double sanction. Donc, j'étais vraiment en pleurs, j'arrivais même plus à parler. Et j'ai appelé la copine avec qui j'avais passé la soirée, enfin, qui était venue passer la soirée avec moi à l'Oncopol, qui est revenue et qui travaille à la communication de Proval, donc le syndicat des joueurs de rugby, et qui m'a dit, s'il n'y a pas de donneur compatible à ce jour, on va le trouver. On travaille dans
on va aller
milieu,
le chercher.
Ouais, dans un milieu médiatique, on va appeler 2-3 joueurs, ils vont en parler et ça va faire effet boule de neige. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a fait que j'ai tenu tout cet été-là où je ne savais pas ce qui allait se passer. La situation était très grave, mais je me levais le matin trop contente de voir que telle personne en avait parlé. La vidéo qu'une copine est venue filmer chez moi en 2 secondes pour raconter ce que c'était la moelle et pour motiver les gens était vue par des dizaines de milliers de personnes. Et que du coup, les inscriptions fusaient, c'était, j'avais la chance d'avoir 35 ans, d'être très sportive, donc d'être dans un milieu où les gens étaient en bonne santé, étaient assez jeunes et du coup sont allés s'inscrire et ont été acceptés sur ces fichiers-là, parce que c'est pas évident d'être accepté sur les fichiers de donneurs moelle osseuse. Il faut être en parfaite santé. Dès qu'il y a un petit pépin, ils ne nous voient pas, ce qui est compréhensible, mais, mais du coup, il y a beaucoup de gens aussi qui ont voulu aller donner et qui ont été éjectés. Et ce que je veux dire, c'est que les critères sont différents pour donner sa moelle, pour donner son plasma, pour donner ses plaquettes, pour donner son sang. Donc, renseignez-vous si vous voulez aller donner quelque chose. Il est possible d'être pas éligible à un et d'être éligible à l'autre. Donc,
et vous le dites, c'est pas grand-chose en fait, mais ça peut sauver, ça vous a sauvé. Ouais. Hein. Il y a eu Thierry Dussautoir, Bernard Laporte, je cite ceux que je connaissais le mieux, hein. Denis Brunière dans un autre domaine. Tout ce monde-là s'est mobilisé pour vous grâce à votre témoignage. La vidéo a beaucoup tourné, je l'ai moi-même reçue. Et alors, ce qui est étonnant, c'est ce que vous m'avez dit hors antenne, hein, c'est pas vraiment pour vous que vous l'avez fait, mais c'est pour les autres. Et agir pour les autres, c'est ce qui vous a donné du carburant pour vous mobiliser, vous, et pour faire face à votre maladie, ou en tout cas penser à autre chose ?
Exactement. Je savais que moi, il fallait que ça se passe dans un délai très court et que pour s'inscrire sur les fichiers, pour que ce soit tout enregistré, ça prend 3-4 mois. Donc, ce que j'allais faire n'allait pas m'aider à moi, mais aller aider cette cause-là. Et du coup, moi, j'ai trouvé du sens à ce qui m'arrivait en me disant, ça te tombe dessus, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Tu as la chance d'être une jeune maman, d'être dans un environnement médiatique, de pouvoir mobiliser, mobilise là-dessus. Et du coup, je passais mes journées à faire cette campagne-là, très bien entourée par plein d'amis qui travaillent dans ce secteur et qui m'ont beaucoup aidée et qui ont su mobiliser des influenceurs. Et je pensais à ça plutôt que à ça va pas, comment je vais m'en sortir.
Même votre boucher à Collioure, vous m'avez dit, a donné son sang. Tout le monde peut donner. Mmh. Alors, donner son sang, c'est assez connu. Hein. Je rappelle que nous sommes ensemble, l'heure vit tout, puisqu'il y a une grande collecte de sang qui est organisée du 20 au 23 janvier au Capitole à Toulouse. 3000 donneurs sont attendus pour donner leur sang. Donner sa moelle osseuse, c'est moins connu. Est-ce que tout le monde peut donner sa moelle osseuse ?
Non, pas tout le monde, parce que comme je vous disais, il faut être en bonne santé. Maintenant, en plus, en France, ils ont réduit. Il faut avoir moins de 35 ans pour s'inscrire, même si on peut donner jusqu'à 60, mais pour pas inscrire des gens qui vont pas être éligibles pendant longtemps, parce que une fois qu'on est inscrit, on n'a qu'une chance sur 1000 de donner, statistiquement, puisqu'il y a cette compatibilité d'une chance sur 1 million. Donc, il y a très peu de chances qu'on donne. Mais effectivement, ce que vous racontez, c'est qu'on a organisé une collecte à Collioure où un camion de l'EFS est venu pour enregistrer des gens qui voulaient s'inscrire sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse et que mon boucher a été rappelé pour donner sa moelle et que lui, il en parle avec les larmes aux yeux en disant « j'ai sauvé quelqu'un ». Et c'est vrai que quand on s'inscrit sur ces fichiers-là, on est appelé comme ça veilleur de vie. On est en veille. Et si quelqu'un un jour dans le monde a besoin de notre moelle, on est appelé. On vérifie, est-ce que vous êtes toujours en bonne santé ? Est-ce que vous voulez toujours bien donner ? Voilà comment ça va se passer. Dans 80% des cas, pour le donneur, ça se passe aussi comme une simple prise de sang.
Y a pas une énorme aiguille qui vient charcuter,
qui
non
vient, qui est dans la moelle épinière. On confond souvent la moelle osseuse et la moelle épinière.
C'est pas ça.
Non, ça se passe pas dans le dos. On prend les cellules souches. Alors, on prend un médicament qui fait qu'elles passent dans le sang. Et du coup, on les extrait et ensuite, on les réinjecte au receveur. De temps en temps, ça se passe par ponction de moelle directement pour des raisons médicales. Et là, ça se passe dans les os du bassin. Voilà.
En tous les cas, c'est pas quelque chose de lourd. Ça fait peur par son nom, mais ça n'est pas lourd. Et tout le monde, même s'il faut plutôt être jeune et évidemment être en bonne santé, il y a un site, je vais le donner, dondemoelleosseuse.fr. Très simple d'utilisation. Vous vous inscrivez. Après, on vous appelle. Vous avez un rendez-vous et vous l'avez dit, vous avez une chance sur 1000 d'être appelé. Mais devenir veilleur de vie, c'est tout de même une belle mission. Le vôtre veilleur, il était en Allemagne. Vous avez eu du mal, je crois, à le joindre une fois qu'on a réussi à avoir la compatibilité.
Oui, bah après, il préserve l'anonymat et ce que je comprends, enfin, moi, il y a une petite anecdote, c'est que quand je suis retournée à l'oncopole le 28 août, je devais être greffée le 19 septembre, on m'a dit, j'ai vu écrit sur l'ordinateur « chercher un autre donneur en urgence ». Et je me dis « mais qu'est-ce qui se passe ? J'avais un donneur, qu'est-ce que vous me racontez ?» Et on m'a dit « il ne répond plus au téléphone ».
Oui.
Et donc là, panique totale, on a une chance sur 1 000 000, j'en avais un, il n'est plus là. Et donc j'ai appelé mon père en lui racontant, il fait « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On lui donne de l'argent ?» Et j'ai appelé, pareil, un joueur de rugby qui me fait « mais je vais l'impressionner, je vais lui faire peur ». Je lui dis « non, mais c'est pas ça ». Et j'ai compris à ce moment-là pourquoi il fallait que ça reste anonyme. C'est un don, c'est de la générosité et la personne le fait parce qu'elle a envie de le faire. Et finalement, il l'a fait. Donc c'était juste un problème de téléphone.
Restez près de son téléphone. Merci beaucoup Laure Vitou pour ce beau témoignage. C'est une incitation s'il en faut à aller donner son sang. La collecte de sang au Capitole, c'est du mercredi 20 janvier au 22 janvier. C'est de 11h30 à 19h et samedi de 10h à 19h. Un grand merci à vous.
Avec plaisir.